Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Robert Rivard.
Bonjour.
Angélique Charreau.
Bonjour.
Et de Jacques Couture.
Bonjour.
Nous sommes dans les studios de Radio Centre-Ville à Montréal et notre thème aujourd'hui sera « Cessez de croire à ce système pourri ». Moi, ça fait longtemps que j'ai cessé d'y croire. En bref, je n'y ai jamais vraiment cru. Si je regarde mon histoire personnelle, dès l'âge de 4 ans, j'ai arrêté de parler quand je suis arrivé à l'école. J'avais vraiment pas le goût d'être dans ce système-là. Ça a pris du temps avant que je parle vraiment. Ça a été jusqu'à l'âge de 12 ans quand je suis arrivé au secondaire. Mais j'ai jamais cru que c'était bon pour moi, de toute façon. J'ai jamais cru que j'allais apprendre quelque chose. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai décidé de me mettre sur l'aide sociale. Je ne croyais vraiment pas à ce système qui me proposait d'aller travailler malgré mon baccalauréat en administration des affaires. À l'âge de 18 ans, je suis allé voter une fois avec mon père et je me suis senti tellement stupide que je n'ai jamais revoté de ma vie. Parce que on sait bien que si voter changeait quelque chose, voter serait interdit. Eh bien, c'est ce thème que nous allons développer aujourd'hui. Est-ce qu'un d'entre vous ou une d'entre vous veut partir le bal?
Ah ben, on me regarde toutes. Alors,
On sait que tu avais des idées.
Oui, j'ai des choses à partager. dépendant comment on voit ça, le système, ce qui me vient à l'idée quand on dit le système, la première des choses, c'est qu'est-ce qui est gouvernement, qu'est-ce qui est gouvernance, qu'est-ce qui est contrôle. Et dans ce sens-là, tant qu'on a le modèle hiérarchique qu'on a, où est-ce que les gouvernants dominent les gouvernés, et c'est important de réfléchir à ça. Quand les gouvernants dominent les gouvernés, eh bien, on a ce qu'on a depuis longtemps. Il y a un modèle, cependant, très différent et d'une manière intéressante. On doit reculer à la Grèce ancienne pendant 200 ans à Athènes. Il y avait un modèle où le système politique était choisi par le hasard. Donc, on ne choisissait pas les élus par le processus semblable, c'était par le hasard. Et il y avait beaucoup de pauvres, il y avait des riches, et c'était les pauvres qui dominaient à l'époque, dans leur choix d'élus et tout ça. Et j'aimerais élaborer un petit peu plus là-dessus, mais c'est une piste que je vais explorer avec vous autres.
Oh, quel beau partage. Mais pour te rejoindre, effectivement, avant, c'était selon le cœur du peuple. C'était vraiment un dirigeant du peuple pour le peuple. Donc, qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Qu'est-ce qui s'est transformé? Ça, c'est tout un système qui a grandi au travers aussi peut-être certaines faiblesses de l'homme qu'il a laissé transparaître. Et puis, il y a toujours des gens pour pouvoir aller chercher ces outils-là, de chercher ces faiblesses et puis de pouvoir en tirer un avantage.
Tu es un peu trop gentil, à mon avis.
Oui,
à mon avis, ça a toujours
gentil.
Été pourri, ce système.
Mais,
dès la racine.
Oui. Angélique me fait penser, réfléchir aux différents systèmes politiques selon le lieu où on se trouve. J'ai une tendance à me référer à des systèmes beaucoup plus sociaux, comme dans les pays scandinaves, etc. Je me demande si eux, dans un gouvernement comme il y a les différents gouvernements des pays scandinaves, s'ils ont cette même perception d'un système aussi pourri qu'on peut l'avoir dans des pays où il n'y a pas les mêmes genres de gouvernement.
Ouais, faudrait leur demander.
Ouais.
Mais je sais qu'il s'est passé quelque chose dans ces coins-là. Je me souviens plus, je pensais la Norvège. Ils ont mis à la porte... ils ont mis en prison...
L'Islande.
Ils se sont soulevés, ils ont demandé aux banques de les payer au lieu de eux payer les banques. Je pense qu'ils l'ont mis, ils ont mis les banquiers et les présidents, ceux qui les gouvernaient, en prison. Mm-hmm. C'était clair. Si on pouvait faire la même chose ici, ça serait très intéressant.
Mais, même dans des pays plus réprimés encore, ils ont renversé des tsars.
Oui.
Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas impossible, c'est juste effectivement à quel point ou à quelle saturation faut-il arriver pour que l'être humain ou le groupe d'être humain se soulève.
Moi, dans le fond, je voudrais revenir justement plus loin même que les Grecs, parce que moi, il me semble que la merde a commencé à Sumer. Avant Sumer, il n'y avait pas de gouvernement. Il y avait autre chose, c'était des pharaons, c'était un autre modèle qui était peut-être pas mieux, mais c'était de famille en famille. Mais quand les gens ont commencé à se mettre au pouvoir par vote et choses comme ça, ça a commencé de la corruption. Et donc, beaucoup de gens croient que la démocratie a commencé dans la Grèce antique, mais ce n'est pas vrai. Ça a commencé à Sumer, 4000 ans avant Jésus-Christ, quand il y a eu l'invention de l'écriture.
Bon, pouvais-tu l'appeler vraiment démocratie à l'époque?
Oui, c'est ça. C'était comme ça que ça a commencé à ce moment-là. Et ça fait un lien avec ce qu'on disait la semaine passée à propos de l'évolution. Tu parlais du chaînon manquant. Mm-hmm. Tout d'un coup, à ce moment-là, à Sumer, est apparue l'écriture, est apparue la démocratie, est apparue une médecine très avancée qui n'a aucun sens.
Les mathématiques.
Il y a eu un saut comme ça qui n'a pas de sens par rapport à la progression naturelle. Donc, on peut croire qu'il y a eu une intervention à ce moment-là, donc que quelqu'un ou un groupe de gens ou d'êtres ont mis en place un système pour nous subjuguer les êtres humains.
Mais c'est toujours la même chose, c'est une question de pouvoir. L'homme a cette, je ne sais pas si on peut appeler ça un défaut ou de fabrication peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est effectivement. Mais c'est toute une question de pouvoir. À partir du moment où il y a un système, il y en a qui sont assez malins pour dire « Ah, ok, donc puisque je sais lire, puisque je sais écrire, etc., on parle donc de connaissance, et cette connaissance-là, elle l'utilise à des fins de corruption ?»
Et la philosophie, justement, il y a une partie majeure, la politique, qui est un point là, d'observation du comportement humain, de ceux qui le composent. Est-ce que lorsqu'on parle de la politique dans le sens philosophique, on ne parlera pas nécessairement de système politique, là, de gouvernement? Qu'est-ce qu'on sous-entend exactement par la politique lorsqu'on approfondit les connaissances philosophiques?
Ben là, maintenant, tu sais, on est rendu dans une société où on est quand même conscient, on peut observer ce qui se passe, puis si on a deux scènes de bon sens, on voit que ça fonctionne pas, tu sais, que la corruption se maintient, on paye de plus en plus d'impôts, on a de moins en moins de services, la vie coûte de plus en plus cher, les ressources semblent de plus en plus difficiles. Pourtant, Hydro-Québec est toujours là, produit toujours la même quantité d'électricité, il y a des mégawatts et des mégawatts de disponibles, si on regarde juste cette technologie-là, mais on doit payer de plus en plus cher, puis c'est nous autres qui payons pour l'existence de cette chose-là. Donc, juste pour citer juste une petite tranche d'une petite observation, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes, qui sont insensées, et il y a on se doit de faire un éveil. Maintenant, si on regarde du côté philosophique et pur de l'être, on n'a pas besoin d'un gouvernement de ce côté-là. Si on regarde de ce côté-là, quand on fait appel à notre sagesse et notre être intususceptible, on voit que des règles pour être bien, pour être juste, ne sont pas nécessaires. T'sais, on est assez conscient et ceux qui le sont le savent. Cependant, on ne vit pas dans un monde de sages. Cette approche-là est bonne pour les sages.
Mais pour aller dans le sens où tu vas, c'est que je pense que ça a toujours été aussi pourri. Sauf qu'aujourd'hui, on a l'Internet, on a les médias qui font que c'est plus facile de voir.
Puis on a plus de témoignages puis de pointeurs de doigts qui disent « Regarde la corruption, regarde la corruption, regarde encore ce qu'il fait. »
Les gens ont le doigt assez facile sur les vidéos. Et
donc,
puis,
on a encore de plus en plus d'évidence que c'est pourri et pourtant, ça n'a pas encore changé.
C'est pas que c'est facile, à mon avis. C'est pas... Il y a l'appareil manipulateur plutocratique qui est composé de quelques familles, les Rothschild, la famille royale en Angleterre et autres qui contrôlent tout. Ils ont des billiards et des billiards de dollars. On sait que 5% de la population a à peu près 95% de la richesse sur la Terre.
Mais une population bien dirigé, bien organisé, bien intentionné dans une direction spécifique peut faire un changement, ça j'y crois. Parce que même avec leurs ressources, ils sont quand même peu nombreux. Et moi, j'aimerais citer Platon qui parlait du gouvernement et de la politique quand il dit « le pire des maux, M-A-U-X, des maux, est que le pouvoir soit occupé par ceux qui l'ont voulu. Donc, c'est pour ça que je reviens au principe du répartition des rôles par loterie. Et aussi, j'aurais d'autres choses à ajouter là-dessus, sur ce sujet-là. Je m'inspire beaucoup d'un penseur qui est un Français qui s'appelle Étienne Chouard. Et je recommande à tout le monde de regarder le matériel d'Étienne Chouard comme vraiment une source d'inspiration très, très grande. Étienne Chouard et le plan C. Et aussi, on peut le voir aussi sur TED, la série de vidéos TED, La cause des causes. Et là-dessus, il fait le bilan des malaises de la société. J'invite tout le monde à regarder ça. Et on va pouvoir en discuter un petit peu plus dans quelques minutes.
Eh bien, on va faire une pause musicale avec une nouvelle chronique d'une femme qui s'appelle Safia. Cette chronique s'appelle « L'art du bonheur ». Puis on revient après la pause avec ce thème « Cessez de croire à ce système pourri ».
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Safia, la nouvelle chroniqueuse qui veut commencer par dire merci Nicolas pour la confiance qu'il me témoigne et l'occasion qu'il m'est offerte de vous apporter à tous un peu de bonheur, ou pour le moins des sources d'informations scientifiques, philosophiques et pratiques basées sur la psychologie positive. N'ayez crainte, ce ne sont pas là des mots terribles, mais rien de plus accessible à qui choisit d'être heureux. Avant cela, pour cette toute première capsule, je souhaite rendre hommage au philosophe père de l'émission et me réfugier dans son avant-dernière chronique du devoir d'être heureux. Il n'est pas difficile d'être malheureux ou mécontent. Il suffit de s'asseoir, comme fait un prince qui attend qu'on l'amuse. Ce regard qui guette et pèse le bonheur comme une denrée jette sur toute chose la couleur de l'ennui. Je fuis. L'expérience m'a fait voir assez que l'on ne peut distraire ceux qui s'ennuient d'eux-mêmes. Au contraire, le bonheur est beau à voir. C'est le plus beau spectacle. Quoi de plus beau qu'un enfant? Mais aussi, il met tout à ses jeux. Il n'attend pas que l'on joue pour lui. Il est vrai que l'enfant boudeur nous offre aussi l'autre visage, celui qui refuse toute joie. Mais chacun a pu connaître de grands enfants qui n'ont point cessé de bouder. Que leur raison soit forte, je le sais. Il est toujours difficile d'être heureux. C'est un combat contre beaucoup d'événements et contre beaucoup d'hommes. Il se peut que l'on y soit vaincu. Il y a sans aucun doute des événements insurmontables et des malheurs. Mais c'est le devoir le plus clair, peut-être, de ne point se dire vaincu avant d'avoir lutté de toutes ses forces. Et surtout, ce qui me paraît évident, c'est qu'il est impossible que l'on soit heureux si l'on ne veut pas l'être. Il faut donc vouloir son bonheur et le faire. Ce que l'on n'a point assez dit, c'est que c'est un devoir aussi envers les autres que d'être heureux. On dit bien qu'il n'y a d'aimer que celui qui est heureux. Mais on oublie que cette récompense est méritée, car le malheur, l'ennui et le désespoir sont dans l'air que nous respirons tous. Aussi nous devons reconnaissance et couronne d'athlète à ceux qui digèrent ces miasmes et purifient en quelque sorte la commune vie par leur énergique exemple. Aussi n'y a-t-il rien de plus profond dans l'amour que le serment d'être heureux. Tout homme et toute femme devrait penser continuellement à ceci, que le bonheur, j'entends celui que l'on conquiert pour soi, est l'offrande la plus belle et la plus généreuse. J'irais même jusqu'à proposer quelques couronnes civiques pour récompenser les hommes qui auraient pris le parti d'être heureux. Car, selon mon opinion, tous ces cadavres et toutes ces ruines et ces folles dépenses et ces offensives de précaution sont l'œuvre d'hommes qui n'ont jamais su être heureux et qui ne peuvent supporter ceux qui essaient de l'être. Quand je reconnais quelques gnomes qui annoncent les guerres et les préparent, je n'examine jamais ces raisons, étant assez instruit sur ces malfaisants génies qui ne peuvent supporter que l'on soit tranquille. On devrait enseigner l'art d'être heureux. Merci à tous, c'était Safia pour Propos sur le bonheur. À la semaine prochaine. Thank you.
a little song I wrote. You might want to...
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Cessez de croire à ce système pourri ». Certains d'entre vous pourraient se demander c'est quoi le lien avec le bonheur, de dire que le système est pourri, mais je crois que quelqu'un qui est heureux et quelqu'un qui est libre fondamentalement, qui veut être libre et qui veut vivre tel qu'il le désire, et le gouvernement s'applique à exactement faire le contraire, à nous mettre des bâtons dans les roues, c'est la loi du commun dénominateur, la loi du moins intelligent dans notre société. C'est les moins intelligents qui ont le plus de pouvoir au niveau de changer des choses quand il y a des votes ou des choses de même. On demande toujours aux gens stupides de voter et ils vont voter sans se rendre compte qu'en fait, ça ne change rien. Tout est décidé déjà à l'avance par les grands maîtres de ce monde. Les guerres mondiales sont votées à l'avance, 100 ans à l'avance. La troisième guerre mondiale qui est en train de commencer, ou qui a commencé cette année, est déjà prévue depuis une centaine d'années par des gens qui vont faire des gros profits de cette guerre-là. Donc, je soutiens que c'est pourri, mais on ne doit pas, à mon avis, se braquer contre ce système qui est tellement fort. Moi, ma philosophie est plutôt de la résistance passive, dire non merci, puis de peu à peu délaisser le système pour créer des systèmes parallèles, autant au niveau de l'éducation, de la santé, de la communauté, etc. Il faut s'organiser en communauté. C'est, à mon avis, l'antidote.
Ben, moi, je suis d'accord avec ça dans la mesure qu'il n'y aura pas d'impact s'il n'y a pas des groupes de gens qui se mobilisent ou qui changent d'attitude, sur ces choses-là. Mais tu as raison aussi du côté, quand on parle de manipulation, dans un passé plus récent aux États-Unis, il y a le père de ce qui s'appelle les relations publiques. Public Relations. Ça a été créé et fondé par Edward Bernays, les amis. Et je vous invite à explorer son livre sur les relations publiques. Et je vais juste citer un passage que j'ai traduit tantôt de l'anglais, mais qui va véhiculer le message comme tel. Et je cite « La manipulation consciente et intelligente des habitudes et opinions des masses est un élément important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme invisible de la société constituent un gouvernement invisible qui est le véritable pouvoir en contrôle de notre pays. » Donc, c'est de la propagande bien déguisée qu'on parle. Très bien déguisée. Invisible, comme il dit. Donc, on est soumis à ces choses-là pour influencer les masses, pour amener les gens, comme tu disais tantôt, à voter inutilement pour un système où ceux qui sont en pouvoir ont déjà créé une constitution et se sont imbriqués là-dedans pour se protéger et maintenir leur survie. Donc, l'obstacle est assez grand à surmonter.
Mais même si cette propagande, il y a toujours le fait qu'il y a des partis politiques de gauche, d'autres de droite. J'ai une tendance quand même à me référer aux mouvements de gauche, qui sont plus des mesures sociales, etc., que des gouvernements de droite où c'est l'entreprise qui est roi, que c'est elle qu'on doit prôner, c'est elle qui donne de l'emploi, mais à quel prix? Hein? Qu'est-ce que ça donne comme réalité à des pays qui sont vraiment orientés où c'est que de la droite, presque à tout point de vue, comme aux États-Unis?
Répercussions cela
a? Oui, la répercussion, oui. Qu'est-ce que tu en dirais de cette répercussion?
Moi, je mettrais surtout l'emphase sur la répercussion au niveau des êtres humains, tu sais, de nous, finalement, à travers tout ça, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça développe, beaucoup d'agressivité, je pense,
oui, déjà.
La violence, ouais. C'est tous les jours un petit peu plus, voire même dans certains pays, beaucoup plus. Donc, c'est vraiment les répercussions pour moi qui me touchent le plus.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas la même réalité ici, hein, puisqu'on, je parlais encore tout à l'heure des États-Unis, à savoir avec ces lobbies des armes à feu, quand on sait que par année, ça donne, je pense, que jusqu'à 30 000 personnes qui se tuent par des armes à feu. C'est pas tous les gens blessés, c'est ceux qui en meurent. Donc, c'est des statistiques qui n'ont aucune autre commune mesure qu'avec des pays où il n'y a pas encore là, l'entreprise qui est roi. Dans ce cas-ci, que ce soit pour faire des armes à feu ou pour créer de l'emploi, on va même demander et faire enseigner aux enfants à une petite fille qui n'avait même pas 10 ans, qui a tué par accident son enseignant d'armes à feu. Et je me suis dit, quand j'ai entendu la nouvelle, bien, c'est une bonne nouvelle.
Je me dis, mais pour les armes ridicule. À feu, t'as, ouais. t'as aussi l'Afrique. Hein, ouais, ouais. L'Afrique est un pays, si on parle de corruption, c'est un pays très touché par la corruption, très touché par la violence.
Ouais. Cette violence dont vous parlez est très payante et oui. Elle est voulue. Oui. Juste par exemple, la semaine passée, il y a eu une fusillade au Parlement à Ottawa. Mm. Les journaux du Canada ont reporté ça assez normalement, alors qu'aux États-Unis, c'était terroriste et arabe. puis ils en mettaient épais et puis les gens embarquent. Mm-hmm. Moi, quand on vient me dire, ah, les Arabes, c'est tout des ci, des ça, 9-11, c'est eux autres, je dis, wow, vous n'avez rien compris, le false flag.
Il y a peut-être un besoin aussi de faire des conséquences, de créer une suite derrière ça. Il y a une idée.
Bien sûr, ça vient d'en haut. Les gens, on sait très bien maintenant que Hitler a fait mettre le feu à son propre parlement et puis après ça a accusé les Juifs. C'est ça qui a commencé la Deuxième Guerre mondiale. Et 9-11, c'est exactement la même chose. Ce système pourri n'a pas peur de tuer ses propres pions. Parce que de toute façon, c'est même pas ses propres pions. Les grands maîtres du monde qui sont des billionnaires n'ont pas de nation. Ils possèdent les pays. Ils sont capables d'acheter les États-Unis et de le revendre en une journée.
Tu le domines soit par les pays ou soit par la dette.
Exact.
Pour faire écho à ce que Jacques mentionnait tantôt, le type de société du côté gauche ou plus peut-être égalitaire, le problème, quand on réfléchit à ça, c'est que même un système égalitaire pourrait décréter que d'une restriction sur la pensée libre. Tout le monde a une restriction, ça serait égalitaire. Tu sais. Donc, le modèle égalitaire, purement, simplement, comme tel, ne serait pas, bien sûr, mon favori. Moi, j'ai plutôt tendance à aimer l'anarchie parce que j'aime l'idée de ne pas être gouverné, à cause qu'on parle ici de la sagesse puis de suivre une sagesse interne. Mais il y a quand même dans notre société des gens, des barbares, ça existe. Et puis, dans ce sens-là, vu qu'on si on accuse réception qu'il existe un élément barbarique dans la société, un certain élément de contrôle puis de restriction de liberté, je pense que doit être accepté si on est pour vivre côte à côte dans un système comme urbain, ces choses-là. Donc, dans ce sens-là, certaines limites, certaines libertés peuvent être à considérer, mais pas, tu sais, quand même dans une certaine mesure. Qu'est-ce qui est le plus important que je vais essayer de véhiculer aujourd'hui? C'est que le problème, c'est qu'on a un mélange de monarchie, d'oligarchie puis de démocratie. Tu sais, la monarchie, c'est l'exécutif, le contrôle ultime. L'oligarchie, ça va être tout ce que c'est la législation, la complexité des systèmes sociaux, tout ça. Et puis finalement, la démocratie, le peuple. Mais le problème qu'on a en ce moment, là, c'est qu'au lieu... OK. C'est les gouvernants contrôle les gouvernés. Si vous sentez pas comme ça, je sais pas que c'est que tu sais, on est vraiment gouverné là, tu sais là, par les gouvernants. Et la dynamique à changer fondamentalement, c'est celle-là, c'est que les gouvernés contrôlent les gouvernants. On nous donne en ce moment une illusion qu'on le fait avec le vote. Mais ce n'est pas ça. Étienne Chouard encore donne un bon modèle où ce qu'il propose des mécanismes de refus de loi, d'annulation de lois passées injustes par le fait que le public a le contrôle de faire ça. Une société évoluée serait une société qui est capable de rejeter tout de suite comme ça un premier ministre, un ministre, le sortir de là immédiatement quand il commence à faire, à se déroger puis aller loin des intérêts du peuple.
Je mettrais une bémol là, quand même à ton système, parce que si on vient dans un système comme tu le décris, ça va devenir la loi du peuple, c'est-à-dire la loi du moins intelligent, la loi de monsieur tout le monde.
Tu as besoin des gens intelligents pour gérer les systèmes, les complexités. Tu as besoin du savant.
Non, mais tu es en train de mettre le pouvoir au peuple. Ben, le peuple est ignorant.
Mais je te donne un exemple. Tu as besoin des ingénieurs, tu as besoin des gens, c'est pour les systèmes des égouts, les systèmes de d'eau, et tout ça. On a besoin des spécialistes, donc on a besoin des gens qui vont travailler pour l'intérêt du peuple, tu sais, d'être sûr que les systèmes fonctionnent, que l'eau fonctionne, etc. Donc on a besoin de gens élus comme ça. Mais si quelqu'un dit, bon, ben l'eau, là, on va mettre ça dans les mains d'une compagnie privée, là, tu sais, est-ce que c'est bon pour le peuple? C'est qui a décidé ça? Si lui, le peuple n'aime pas ça, qu'on le sorte de là et puis qu'on l'expulse. Alors, dans ce sens-là, d'avoir un pouvoir d'expulsion ramené au peuple pour toute chose qui ne sert pas le peuple.
Un droit de donner son avis, tout simplement.
Oui, un mécanisme là, qui est là, qui peut instantanément... Regarde la loi 78, il n'y a pas longtemps. Là, si on avait eu un mécanisme comme ça, là, on l'aurait-tu gardé, la loi 78? Je pense pas. T'sais. Donc, juste pour une idée. Là, pour on va vous
laisser réfléchir sur ça pendant la pause avec la chanson de El Gaouli qui s'appelle « Illuminati ». Puis on revient après la pause avec ce thème « Cessez de croire à ce système pourri ».
Pour les conditionner à ceux qui les attendent, qui veulent éradiquer plus de la moitié d'entre nous. Apparemment, besoin d'un peu l'argent, mais les désirs sont fous. Ils veulent nos corps, nos cœurs, exploitent nos torts, nos peurs. Regarde tes ports, nos cœurs, programmer le game over. Comme ils ont programmé le dynamitage du World Trade. On se meurt, rappelle pas les cœurs si t'as besoin d'aide. Ne te demande pas qui a tué Kennedy. Pourquoi sont morts Coluche, Sharon, Rousseau ou les Didi. La haute société n'aime pas qu'on la contrarie. On parie, t'entendras jamais son à la TV. Moi je préfère mourir comme un lion que vivre comme un mouton. Si on laisse faire, bientôt ils nous squeezeront avec un bouton. A toi de comprendre et de t'informer quand les informations relayées sont toutes déformées. L'heure est à la révolte, on enfonce les portes du savoir. Même si la vérité est dure à croire. Demande au Père Noël en 357. Il est en Rockefeller et ses pères se prennent une balle dans la tête. Ils veulent le pouvoir, prendre le contrôle, de nos corps et nos esprits, nos âmes à n'importe quel prix, nos âmes à n'importe quel prix. Nicolas n'est que leur boniche, avec sa potiche, il fait juste office de nouveaux riches. Là c'est la cour des grands, les suppôts de Satan dévoués. As-tu lu la petite pilule du Saint-Laurent écoutée? Ces gens se croient plus intelligents, nous voient comme des moutons au-dessus des lois. C'est pas le même monde que toi. J'étais pas du genre à croire en de telles théories. Mais la vérité est la même si elle est horrible. On les appelle ou pas, ils dirigent bel et bien le monde et conditionnent nos vies. Leur influence est partout, regarde bien. Dans le cinéma, la musique, la politique, on le sent bien. Si on prend les repères nécessaires, les signes, les logos, les symboles soudainement deviennent clairs. On n'est que des marionnettes soumises à leurs plans. Et leur cynisme pas le tout, là c'est le sang. Ils veulent le pouvoir, prendre le contrôle de nos corps et nos esprits, nos âmes à n'importe quel prix, nos âmes à n'importe quel prix. On a inventé la démocratie pour brouiller les pistes. Nous faire croire à tous que la liberté existe. Pour ne pas qu'on résiste ou qu'on s'oppose. Et c'est réussi, on peut voir les cerveaux en ménopause. Ouais c'est nos causes qu'on défend avec tant d'ardeur. Imagine mon rap, à plus de leur perte en débardeur. Débarque de rire, ça fait longtemps que j'en ai pas tapé. En fait, depuis que la vérité m'a rattrapé. Pour eux le monde est qu'un grand échiquier. Non, ne crie pas au fou avant de vérifier. Tu doutes? Regarde bien à la loupe les lignes de ton chéquier. Pourquoi tout est subliminal et dissimulé? Moi je viens délivrer ma vérité. À qui veut l'entendre, à qui veut comprendre, qui veut prendre les armes sans attendre.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Cessez de croire à ce système pourri ». Alors c'est évident, aujourd'hui on nous ment. On nous ment à pleine pochetée. C'est comme plus évident que jamais grâce aux médias, grâce à un paquet de choses. Mais encore là, beaucoup de gens ne veulent pas y croire. Ils continuent à vivre comme tout le monde, comme n'importe comment. Un exemple, moi, qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, il y a peut-être 2 ans, au Québec, il y a eu ce qu'on appelle le printemps érable, où il y a eu des étudiants qui sont entrés en grève pendant plusieurs mois, et ça tapait des casseroles dehors, c'était la révolution, mais rapidement, ces gens ont écrasé, sont revenus dans les rangs, et puis le petit changement qui avait été produit... finalement est revenu à la normale, un peu comme un coup de pied dans du jello. On a eu un gouvernement québécois pendant 1 an, et puis là, le gouvernement libéral est revenu. Et moi, ce que j'avais le goût de leur dire, c'est si vous croyez vraiment à votre cause, cessez d'aller à l'université. Cessez d'aller dans ce foutu système pourri. Il est pourri, vous le savez, vous vous rendez compte. Mais ce que vous faites, ce sont des petits changements qui vont finalement vous nuire en bout de ligne. Donc, mais ce que moi je propose est encore plus profond, c'est-à-dire si tous ces gens qui allaient le jour taper dans les casseroles, le soir ils revenaient chez eux, ils continuaient d'utiliser leur carte de crédit, continuaient d'avoir leur auto, de participer au système. Et pour moi, ça, c'est une preuve que c'est rien.
Mais ils y vivent. On y vit quand même dans ce système. Tu sais, si je veux faire la part basique de la société, les gens vivent quand même ça. Ils sont habitués. Même si vous voulez, ils auraient des élans pour changer, il y a quand même une structure qui est là. Il y a quand même une habitude. Il y a quand même pourquoi tout le monde va à l'université. Parce que si demain tu veux du travail, tu dois avoir un bagage. Tu dois avoir une clé qui va ouvrir une porte. Il y a quelque part plus loin que toi, quelqu'un qui t'y oblige. Mais quand même, si.
C'est pas vrai.
C'est une réalité.
Mais c'est ta
réalité. Mais moi, la preuve en est que moi, je vis très bien. Et puis, ce que je fais maintenant, je ne l'ai pas appris à l'école. L'infographie, les sites Internet n'existaient même pas quand j'étais à l'université.
Ça, c'est bien quand il y a un peu plus de maturité. Mais ce que je veux dire, c'est si tu t'adresses à un public qui a peut-être entre 16 et 22 ans, ou même 25, qui ont des projets, qui veulent se bâtir une carrière. La voie obligatoire ou la voie pour pouvoir y accéder, ce sont les études, ce sont les universités. Et puis, ça se trouve, ils auront le même discours, ils seront d'accord avec toi. Mais n'empêche qu'ils sont quand même pris à quelque part de faire ça.
Non, parce qu'ils n'avaient pas les couilles pour faire vraiment le vrai changement. On m'a reproché, moi, de rester chez moi parce que tout le monde allait protester. Je me souviens, mon voisin est arrivé à 4h du matin. Puis moi, je disais, moi, je ne bougerai pas de chez moi pendant que vous allez taper sur vos casseroles. Moi, j'écris des livres qui vont changer le monde. Je suis président d'un organisme sans but lucratif qui va changer les choses à long terme. Alors que vous, c'est juste un petit un souffle et puis vous revenez dans les rangs. Alors, ces jeunes dont tu parles, moi, je le disais, vous avez raté votre coup parce que, regardez, c'est encore pire qu'avant. C'est revenu à la normale et puis ça va continuer d'augmenter les prix. Vous n'avez pas réussi. Si vous aviez tout dit « non, merci, on lâche l'école », là, il aurait réagi, il aurait dit « waouh, on va faire faillite ». Il nous aurait écoutés, il aurait écouté les gens. Mais non, les gens n'avaient pas ce courage.
D'accord, mais après ça, moi, j'ai une question. Qui instruit? Parce que si, défaire une structure comme ça, OK, pas de problème, c'est bon. Mais ensuite, il faut quand même que... Il ne faut pas que ça parte dans tous les sens.
Ben moi, mon modèle, c'est le modèle qui a été utilisé à travers les âges, qui est le modèle de l'atelier du maître. Moi, si
donc,
je veux apprendre...
Donc, il faut des maîtres. Donc, il faut des maîtres
oui.
après ça.
Moi, si je veux apprendre la peinture, je vais aller chez le plus grand des maîtres et je vais lui demander, je veux être ton apprenti. Je suis présentement l'apprenti d'André Moreau en philosophie. J'apprends chez le meilleur. Je ne vais pas aller apprendre à l'école chez des fonctionnaires de la pensée.
Donc, dans ces cas-là, moi, ce que je te dirais, c'est où sont les maîtres pour pouvoir aussi s'annoncer?
Ben, c'est pas mon problème. C'est à ceux qui veulent des maîtres. C'est à eux de trouver leur maître. Si à une certaine époque, la personne voulait être un sculpteur, ben, elle trouvait Michel-Ange, elle trouvait la manière d'aller là puis de se faire accepter.
Je pense qu'il y a un pas qui peut se faire des deux côtés. Sincèrement, pas toujours one way, pas toujours sens unique. Je pense que, justement, quand on parle d'intelligence émotionnelle, par exemple, ben, je pense que c'est ça. Un pas peut se faire des deux côtés.
Mais Angélique, souvent, ce qui se passe dans notre vie au quotidien, dans ce que l'on ressent, nous avons une tendance d'être conformistes. La peur nous dirige, nous amène à se référer à des choses prévisibles, à des organisations déjà établies. Donc, il n'est pas évident. Il y a des gens qui ont une tendance naturelle d'être autonomes, entrepreneurs et tout. Mais plusieurs vont aller vers les systèmes établis, vers de bons emplois. Il y a encore eu jusqu'à tout récemment, il y a une époque où on se référait qu'un bon emploi au Québec, c'était travailler pour la fonction publique, par exemple. On avait de bonnes conditions de travail, on avait une belle vie. Mais je pense que ce n'est plus le cas maintenant.
Et une retraite à la clé, ce qui n'est plus le cas maintenant.
C'est de moins en moins le cas, oui. C'est ça.
Mais écoutez, les amis, vous avez fait le tour de la question là-dessus.
Il y a la note que dans ces cas-là, si effectivement des gens, comme tu dis, qui sont beaucoup plus apprêtés à être autonomes, eh bien dans ces cas-là, moi j'inviterais ces personnes-là à justement créer un mouvement et peut-être justement à devenir ces maîtres pour les autres.
Mais tu sais, moi, tout ce que je demande, c'est de la congruence. Ceux qui s'en foutent, par exemple, quand les étudiants étaient en grève, la majorité des gens qui étaient en administration, en finance, n'ont pas été en grève. Ces gens-là croient au système, puis ils veulent faire de l'argent, ils vont être dans le système. Mais moi, j'ai rien à voir avec ces gens. Moi, je suis plutôt avec ceux qui veulent vivre autrement. Et ils avaient la chance. Ils auraient pu se mettre en masse puis dire, nous, on veut plus faire partie de ce système. Et on crée nos propres universités. Il y a des écoles populaire dans certaines parties du monde. Par exemple, je sais qu'en Europe, il y a un paquet de philosophes qui ont créé une école. Et c'est pas la même chose. C'est possible, mais il faut s'organiser. Et c'est ça le gros problème, à mon avis, c'est que les gens ne sont pas communautaires aujourd'hui. On est super individualistes, chacun pour soi, justement pour aller... Tu me parlais d'aller trouver un emploi, mais pour moi, c'est pas ça le plus important. parce que j'ai
non,
ça m'a pris
que
du temps avant de travailler.
Le système dit que si tu veux avoir un emploi correct, il faut que tu aies un bagage.
Oui, mais le système est pourri.
C'est ça.
Donc,
oui.
Si tu écoutes le système, lui, il te dit de faire ça parce que qu'est-ce que ça fait? C'est que tu n'as pas de temps pour te révolter. Tu es fatigué le soir. Mm-hmm. Je le vois présentement, je travaille mm-hmm. fort, puis le soir, je suis fatigué. Puis,
Tu sais que même si tu voulais t'évader... tu sais, pour faire une petite variante, justement, parce qu'il y a des gens qui sont saturés comme ça, mais comme dit Jacques, c'est une question de peur, peu importe. Donc, il y a des gens aussi qui vont aller s'évader autour de ça, et des gens qui sont assez capables de manipuler aussi dans le système la façon de dire oh, tu veux te reposer, tu veux t'évader, j'ai ce qu'il faut pour toi. Et là, on retourne, tu sais, dans une espèce de système qu'on croit différent, mais c'est dans le même, sauf que ouais. C'est illusoire.
Mais tu sais, moi, je suis plutôt dans les petits détails. Bon, là, on parle de grosses choses, laisser l'université. Oui, c'est peut-être difficile pour certaines personnes, mais arrêtez d'utiliser votre carte de crédit. Arrêtez de tout payer avec vos cartes de crédit. Mm-hmm. Je veux dire, arrêtez de vous faire suivre avec votre téléphone. Les gens ont des GPS maintenant. Arrêtez de voter. C'est des petits détails. Si tout le monde arrêtait de voter, c'est exactement ce que je suis en train de dire pour les étudiants. Si on disait non merci, ben là, ils nous écouteraient. Les gouvernants n'auraient pas le choix d'écouter le peuple, parce qu'on lui dirait, regarde, on n'avance plus. On n'avancera pas tant que vous n'allez pas changer.
Oui, mais ce serait aussi main dans la main avec qu'est-ce que... Je te donne un exemple, par exemple. Juste payer ses impôts annuellement, tu sais, ou les mécanismes qui ont rapport à la collection de taxes. C'est ça qui alimente le monstre qu'on critique en ce moment. Tu sais. Donc, peux-tu imaginer un regroupement assez cohérent et d'accord pour que tous et chacun se disent, tu sais... À partir de cette date-là, on ne paye plus d'impôts. N'importe qui charge la taxe ne sera pas patronisé, on n'ira pas dans ces magasins-là, on n'ira pas dans ces places-là.
Ouais,
imagine une genre de scénario sans
boycotter.
Boycotter la collection et la perception des taxes sur tous les niveaux. Tu sais. Qu'est-ce que tu ferais? T'sais, c'est-tu possible? Qui va être dans le bag et qui va le faire?
T'sais? Oui, mais moi, j'ai déjà réfléchi à ça. Par exemple, on peut commencer par des petites choses. Commencer à faire du troc. Mm-hmm. Moi, je fais du troc avec certains de mes clients. J'échange ci contre ça.
Oui.
Il n'y a pas d'argent. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent?
Oui.
Si on fait de l'argent, si on se fait payer en argent, on peut toujours dire on peut se faire prendre. Même si c'est illégal, ce système qui nous fait payer des impôts, si tu ne vas pas dans le sens, tu vas te faire vraiment taper sur les doigts. Il y a une femme qui s'appelle Mme Blanqueteau. Jocelyne, c'est tout ça,
Il y a l'actrice aussi, mais là, je pensais pas à elle.
Non, c'est Micheline. Ouais.
Micheline Langteau, s'est faite arrêter. Elle n'a pas payé ses impôts pendant des années. Elle a raison, mais elle a confronté le système un peu trop directement. Moi, je ne suis pas dans la désobéissance civile parce que ça te revient en pleine face. Moi, je suis dans la résistance passive. Prenez Gandhi. Gandhi a changé des choses dans le plus profond des choses en faisant quoi? Rien. En disant non. On va faire notre propre sel. Il y en a beaucoup qui se sont fait battre à cause de ça quand ils ont voulu avoir leur propre sel, mais ça a fonctionné. Les Anglais ont fini par sortir. Mais c'est des petits détails de dire non merci dans des petites choses. Mm-hmm. Puis si on additionne les non merci, en bout de ligne, ça a un impact.
Si ça ferait boule de neige puis ça deviendrait une majorité, ça serait bien parce que je pense que l'élément le plus important, parce que dans une société, habituellement, on veut... où on se retrouve à avoir des leaders, des gens qui sont, qui naviguent le bateau à la fin. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui conduise le véhicule. Mais encore là, je reviens à une pensée que je pense qui est importante à considérer comme concept, c'est d'avoir tout le temps, qu'est-ce qui compte, c'est d'établir un contrôle continu et efficace que les gouvernés exercent sur les gouvernants. C'est ça l'idéal. Un mécanisme, c'est des gouvernés qui doivent retenir la laisse et contrôler où ces gouvernants-là s'en vont. Et jusqu'à temps qu'on aille ça, on n'aura pas vraiment de changement comme tel là-dessus.
Ouais. Moi, je les foutrais à la poubelle, les gouvernants.
Mais là, comme ils sont là, ils sont vraiment des corrompus.
Est-ce que vous avez besoin vraiment d'un big brother, d'une figure paternelle qui vient vous dire quoi faire? Non.
Non, mais regarde, tu te sens dehors, puis il y a une route, et puis il y a quelque chose de commun. Les petits trucs communs, c'est ça qui est là.
Non, mais ça, c'est toujours l'exemple qu'on donne. Mais si on était une communauté, on serait comme une tribu. On aurait notre coin. Chacun aurait notre quartier. Mm-hmm. On s'occuperait de notre quartier. Mm-hmm. Moi, ma rue en avant, je m'en occuperais avec tous les autres membres de ma communauté. C'est pas vrai qu'on a besoin de super grosses structures parce que quand on envoie de l'argent dans ces super grosses structures, elle finit toujours par tout d'un coup, elle disparaît.
Ouais.
Ouais, la simplicité des échanges entre les êtres humains sans se poser plus de questions que ça ou tout simplement sans qu'il y ait un rapport bénéfice.
super intelligent.
C'est bien.
Bien, on vous laisse réfléchir à ça. Justement, vous allez penser à Angélique, parce que ça va être la capsule d'Angélique. Le bonheur dans toutes les directions. Puis on revient après la pause avec ce thème. Cessez de croire à ce système pourri. Wow! I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I
wouldn't. Bonjour, aujourd'hui ma chronique soutient Vincent pour son inconfort, la timidité. Je suis timide, parler avec des inconnus me paralyse un peu et j'ai bientôt des entrevues. Une petite recette pour retrouver la parole ? Tout le monde ne se sent pas toujours à l'aise de s'adresser à un public ou à des inconnus. Ça fait rougir ou ça tétanise à la simple idée d'y penser. Pour rassurer Vincent et lui offrir un mieux-être auprès de ses congénères, les êtres humains, je propose la solution jeu, le Max des Mix. En préparation, des grands morceaux de carton, une paire de ciseaux, trois marqueurs, un noir, un rouge et un vert, et un petit carnet de notes. Prenez vos cartons et découpez-les en 26 morceaux, plus exactement les 26 lettres de l'alphabet. Ensuite, à l'aide des marqueurs, vous mettez des points de couleur. Noir pour les lettres I, O, U, P, M, H, R, F. Rouge pour les lettres X, W, Q, Z, N, K, C, E, S. Et vert pour les lettres A, B, Y, L, J, E, V, D, T, G. Dans votre carnet de notes, faites une liste de 26 mots commençant par chacune de ces lettres. Ce qui fait bégayer ou donne une note de panique et l'hésitation en plus d'un inconfort. Alors les mots qui vous viennent instinctivement à l'esprit sont ceux qui vont vous aider à vous dépasser dans votre objectif, celui de vouloir parler clairement et échanger facilement. Donc gardez-les précieusement. Ensuite, mixez toutes les lettres ensemble, puis piochez-en 8. Alors prononcez 8 mots de votre choix avant de les inscrire sur papier. Mixez à nouveau, piochez 8 lettres et inventez 8 mots. Prenez plaisir en vous amusant à le faire. Mixez encore une fois, piochez de nouveau 8 lettres, prononcez-les à l'endroit et à l'envers. Avec ces mêmes lettres, trouvez 8 mots, prononcez-les à l'endroit et à l'envers. Voici la pratique du chassé-croisé, merveilleux exercice pour vous aider à coordonner des idées. Voici la pratique du chassé-croisé, merveilleux exercice pour vous aider à coordonner des idées, des pensées, en mots sans accrocher et avec assurance de les dire. Maintenant, vous rassemblez les lettres en équipe. Cela veut dire par trois. Une noire avec une rouge et une verte. Et trouvez un mot pour chacune de ces équipes. Vous vous apercevez qu'il vous reste trois lettres en trop. Disons que le hasard va opérer une certaine magie. Trois lettres transformées en trois mots pour finir en trois phrases. Voici votre formule que vous pourrez répéter à chaque fois que vous le souhaitez. En quelque sorte, le petit coup de pouce qui met la table pour recevoir vos invités. Maintenant que vous vous êtes échauffé, passez à l'action. Rendez-vous dans 10 endroits différents et exercez-vous. Un bar, une boutique pour hommes ou pour femmes, pour les cellulaires, un guichet de gare routière, un magasin de farces et attrapes, un gym, une bibliothèque, un garage automobile, une banque, une pharmacie. Vous chercherez l'échange et placerez dans la conversation une de vos phrases mixtes de vos exercices précédents. Vivez le moment comme si vous étiez en compagnie de la personne la plus intéressante et rassurante qui soit. Après cette performance de courage, soyez osé. Puisque le papillon est sorti de sa chrysalide, si un ou une de vos amis vous fait un compliment sur votre façon de communiquer, demandez-lui alors de vous inviter à souper. La solution jeu, le Max des Mix, convient également aux personnes désorganisées. Merci de me laisser vos commentaires et questions à propos sur lebonheur.com. Bonne performance, bon jeu, bye bye. I feel good.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Cessez de croire à ce système pourri ». C'est évident, aujourd'hui, on nous vole et on nous rit en plein visage. On nous vole en riant de nous et les gens baissent les chines et disent « Oui, ok, on va vous donner ». Le Canada, par exemple, est un pays extrêmement riche. On ne devrait pas travailler. Moi, je suis de ceux qui croient qu'on devrait nous payer pour vivre. On devrait recevoir, par exemple, un salaire minimum, tout le monde, ne pas payer d'impôts, ne pas payer de taxes, ne pas payer la nourriture, ne pas payer le logement. Je crois que tout devrait nous être donné. Si on veut un surplus, alors là, on pourrait gagner de l'argent. Imagine que moi, je veux imprimer des livres, mais là, je pourrais travailler pour un surplus, mais le minimum devrait être fourni à tout le monde, à mon avis, pour donner le bonheur. Moi, je pense que si on revient au bonheur, si tout le monde avait quelque chose à manger, si tout le monde avait un toit, ça serait tellement plus facile de vivre. Il y aurait moins de tensions dans le monde. On sait que les pays où il y a le plus de violence, c'est à cause de la pauvreté.
Mm-hmm. Mais tu sais que sur une majorité, si tu posais la question très honnêtement, t'as combien de personnes qui seraient d'accord et t'as combien de personnes qui ne seraient pas d'accord avec ça? Encore une fois, je pense que il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui préfèrent le pouvoir à l'égalité. Et que installer un système comme ça, la même base pour tout le monde, les mêmes choses essentielles comme la nourriture, avoir un toit, etc. Moi, je pense que s'il y avait un sondage, à mon avis, ça pourrait décevoir.
Oui, mais moi, je ne suis pas très préoccupé par ce que la majorité pense, parce que la majorité a tort. La majorité n'est jamais dans la vérité. Elle l'est emplie par un gouvernement qui le programme. Mm-hmm. Si on sait que 95% de l'argent est possédé par 5% des gens, pourquoi ces gens ne nous paieraient pas? Mm-hmm. Les étudiants, quand ils ont fait la grève, il y en avait des intelligents mm-hmm. qui ont amené des idées comme ça. Les gouvernements, pas les gouvernements, mais les entreprises devraient payer les études des gens parce que, dans le fond, mm-hmm. ces gens vont travailler dans ces entreprises mm-hmm. après. Ça devrait être un partenariat. Mais ça n'a pas été accepté.
Oui, en prenant compte que peut-être les retraites n'existeront plus d'ici là, qui fait que je trouve qu'effectivement, ce sera un échange très intelligent.
Pour ceux qui ont... je reviens au propos que tu as mentionné tantôt, Nicolas, qui sont... tu sais, que tout devrait être gratuit. Pour ceux qui ont... qui sentent mal là, quand ils entendent ça, là, j'aimerais vous inviter à visionner le travail de Jacques Fresco qui s'appelle « The Venus Project » et voir où la pensée de l'efficacité dans la société, dans la construction, dans l'architecture, dans l'usage des ressources est-elle ajoutée avec des machines en ce moment qui existent, des amis, qui sont comme une imprimante, mais qui peuvent créer un modèle 3D d'une maison en une journée ou deux. La machinerie, la technologie est telle en ce moment qu'on peut s'autosuffire électriquement, chaleur, nourriture, production agricole, ces choses-là, et d'une manière écologique en même temps. Toutes ces technologies-là existent, mais elles ne sont pas distribuées à large échelle, elles ne sont pas prises, elles sont dans des petits secteurs tout petits, très spécialisés, mais tout est là pour donner à l'être humain tout ce qu'il veut. Une chose peut-être que je dirais, c'est peut-être une pensée profonde doit être faite sur le côté de la population et sa quantité, puis encore là, il y a encore de la place, d'après moi.
Robert, justement, il y a beaucoup de gens qui, pour eux, donnent un sens au fait de travailler. Ils se disent, bien, si je ne travaille pas, je m'ennuie, je n'ai pas d'activité, je n'ai rien qui m'anime. Il y a des gens qui croient fortement à l'idée qu'il faut travailler. Là.
Oui, mais ils pourraient travailler pour le plaisir.
Oui, c'est ça
que j'amène. Moi, si je voudrais travailler, je voudrais le faire par plaisir. Mm-hmm. Parce que très longtemps, je n'ai pas travaillé. Et ce qui m'a commencé à m'obliger à travailler, c'est qu'il fallait que je paye mon loyer. J'ai attendu le plus longtemps possible, mais...
Puis si tu n'as rien à faire, tu vas t'emmerder, il va y avoir un élan de désir, de créativité, parce que l'être humain se tanne de tout. Fait que tu vas vouloir être amené à changer quelque chose, à interagir avec quelque chose, à bouger, veut pas, tu sais. Qui aime avoir la même chose tout le temps, tu sais?
Mais le danger, c'est de voir la société... avec le modèle présent, mais avec les idées qu'on est en train de dire. Si la société était basée sur d'autres valeurs, la société serait totalement différente. Les gens n'auraient pas besoin d'un incitatif pour travailler. Ils auraient du temps pour leurs enfants, mm-hmm. ils auraient mm-hmm. du temps pour leur famille, ils auraient du temps pour les loisirs. Et ce qui, à mon avis, le plus important chez l'être humain, à mon avis, c'est l'art, la beauté qui est importante.
Bah, tout à l'heure, on parlait de violence, puis je pense que ça désamorcerait pas mal.
Ben oui,
l'effet agressif.
On n'a pas à se chicaner et à se tirailler, on a déjà tout. On sait qu'on va dormir, on va avoir un toit.
Tu as toujours des gens qui voudront plus quand même. Hein?
Oui, et ils sont bienvenus. Poursuivez vos ambitions.
Il y aurait le droit, oui. C'est oui, ça. On le donne le droit.
Parce que philosophiquement, spirituellement, appelle ça comme tu veux, l'idée, c'est de pousser les limites de ce qui a été créé. Ici, on n'est pas ici pour juste régurgiter ce qui a déjà été fait. Donc, on veut la créativité, on veut dépasser les barrières qui ont déjà été faites.
Et j'imagine des mesures comme celle-là seraient vraiment aussi très environnementales, même si on n'a pas des soucis
absolument.
À tout point de vue. C'est que juste le concept des supermarchés n'existerait plus. Il n'y aurait pas toutes ces pertes-là en grosse quantité, jour après jour. Si tout était bien distribué au fur et à mesure pour tout le monde, autant ça éliminerait aussi beaucoup de souffrances de gens qui manquent de nourriture, qui restent sur leur faim parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. plus, en fin de compte, toutes ces pertes-là qu'il y a dans les supermarchés avec ces systèmes de distribution qui ne sont
pas... Je te rejoins personnellement. Moi, j'y ai travaillé en Europe dans le système de grande distribution. Et puis, chaque matin, il y avait des mètres de hauteur de nourriture mis dans des chariots. J'avais demandé peut-être qu'on puisse le redistribuer, Resto du Cœur, etc., les associations comme ça pour les sans-abri. Et puis, il y a une loi qui l'interdit. Donc, tout est brûlé. C'est des chariots, des centaines de kilos de nourriture, simplement parce qu'il y a une loi qui dit non, on ne redistribue pas.
Je me rappelle très bien quand je suis arrivé à Montréal, alors j'ai 24 ans et j'ai refusé de travailler. C'est tout de suite vers ça que je suis allé, moi, les banques de nourriture. Et ça m'a beaucoup aidé à cette époque-là. Pendant 2-3 ans, je suis allé dans une banque, ça me coûtait 75 cents par semaine. J'avais 5-6 gros sacs de nourriture qui étaient fournis par justement des supermarchés, des gens généreux. Et qui, de toute façon, ça sert à la poubelle.
C'est ça.
On sait qu'il y a des milliers de porcs qui sont tués et brûlés à chaque année juste pour garder les prix. Ça, c'est la même chose avec l'essence. C'est la même chose dans
beaucoup tout. Beaucoup de gaspillage. On parle d'économie, on parle de consommation, etc. Oui, mais la perte. La perte est énorme.
Mais moi, j'ai tendance à croire que le gaspillage est l'apanage des dieux. Sauf que ce dont toi, tu parles ici, là, c'est plutôt une stratégie des gens au pouvoir pour nous garder dans des prix élevés. Donc, ce n'est pas du vrai gaspillage. C'est vraiment... c'est
comment du contrôle.
En règle générale aussi, les gens ne sont pas spécialement très attentifs à l'écologie, à faire attention. Très vite, si tu vas dans les parcs, si tu vas dans les endroits publics, tout le temps, tu vois des gens laisser leur sac de vidange comme ça, les détritus, ça met à terre, ça fait pas attention, ça s'en fout.
Mais la société est vraiment encore là, guérie, là, orientée du côté domination et contrôle. Il y a beaucoup de pression sur tous les êtres humains de travailler fort, de travailler, d'avoir peu de temps pour réfléchir, peu de temps pour considérer d'autres alternatives et d'être soucieux des dettes et puis de l'endettement et puis d'être sûr que tout le monde mange et puis tout ça. Puis on n'a pas le temps, puis il faut recommencer la même chose le lendemain. Ça va prendre quelque chose d'intéressant pour...
Ça va prendre de refaire pousser une terre.
Ben, moi, je répète, c'est les petits détails. Si vous voulez que les choses changent, arrêtez de penser à la grosse... Comment on mange un éléphant?
Une bouchée à la fois.
Ouais. Arrêtez. Moi, j'utilise ma carte de crédit seulement pour payer mon Internet. Je la sors jamais de chez moi. C'est juste pour dire que parce que si je veux un appart ou si je veux quelque chose, ils vont aller voir mon crédit. Donc oui, j'ai une carte de crédit, mais je ne l'utilise jamais. Mm-hmm. Alors que la majorité des gens, ils ne payent qu'avec des cartes de crédit. Donc vous êtes suivi partout, vous êtes complètement vérifié par des gens qui vont après ça vous vendre des choses spécialisées. Des petits détails, arrêtez d'aller voter, arrêtez de croire à ce système, puis organisez-vous en communauté. Moi, j'y crois et j'ai fondé un organisme sans but lucratif et j'amène des valeurs. L'atelier, pour moi, c'est une valeur très importante, l'atelier du maître. On apprend chez un maître, pas chez un fonctionnaire qui est payé puis qui ne voudra pas laisser sa place aux plus jeunes, plus intelligents qu'eux parce qu'il y a une convention collective. Le système est pourri jusqu'à la racine. Foutons-le à terre, mais gentiment. Parce que si on se braque, ça va nous revenir en pleine face et on va souffrir. Moi, je ne veux pas souffrir. Je veux que ça soit plaisant. Mais si on fait des petites choses, on est dans l'ombre. Restons cachés, puis résistons passivement.
Mais c'est parce qu'il y a aussi... ça fonctionne encore comme ça parce qu'ils ne sentent pas un réel danger d'un mouvement tel que celui-ci. Un mouvement idéal où, justement, tout le monde serait comme au même niveau. Les gouvernements ne sentent pas encore ce danger approcher.
Et ce n'est pas un danger. Les gens ne sont pas organisés.
Non, mais ce que je disais, c'est qu'il ferait peut-être les choses autrement quand l'être humain, quand il se sent en danger.
Moi, je me sens complètement anachronique. Hier, j'étais assis au métro Berry-UQAM. Tout le monde avec leur téléphone cellulaire, puis ça se parle. Puis là, oh, ouais, puis là moi, j'ai pas de téléphone. Tu sais. Puis là, j'ai cherché un téléphone public pour appeler mon ami qui n'y arrivait pas. Puis il n'y en avait plus nulle part. J'étais là, wow, je me sens comme un handicapé. Mais en fait, après, en réfléchissant, je me suis dit, c'est moi le plus intelligent. Moi, c'est moi qui ai déplogué ici. Je pars de chez moi.
Tu fais de la télépathie.
Moi, je reste libre quand je suis chez moi. Quand je sors de chez moi. Tu sais. C'est des petits détails. Pensez pas aux grosses choses parce que c'est pas ça qui fonctionne dans la.
Avant, c'était un peu ça. Hein. Avant, quand il n'y avait pas les cellulaires, moi, je me souviens d'écrire à mes amis que tu rencontrais pendant les vacances. Tu choisissais un beau papier à lettres, une belle enveloppe. Il y avait cette. Je sais pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça me manque, par exemple.
Dans l'ancien temps.
Oui, dans l'ancien temps, c'est ça. Je dirais que je sors de la préhistoire. Ouais,
Robert, le mot de la fin.
Ben, en parlant de politique, comme on l'a dit, j'aimerais citer Alain, un penseur, qui dit. Le trait le plus visible de l'homme juste est de ne point vouloir du tout gouverner les autres et de se gouverner seulement lui-même.
Exact, et ça décrit très bien le sage. Le sage ne va pas chercher à dominer les autres. Il domine par ce qu'il est, par la lumière qui l'émane, mais il ne cherche pas à dominer les autres. Donc, soyez donc sages et cessez de croire à ce système pourri. On vous laisse avec une chanson de Suprême NTM et ça s'appelle « L'argent pourri ». Eh bien, je veux remercier le mouvement jovialiste, Radio Centre-Ville et Radio H2O de diffuser notre émission et d'appuyer ce projet. Puis, bonne semaine à tous.
Bonne semaine à toi.
Et bon week-end.
Bye bye.
Et on vous invite à venir écouter l'émission sur propossurlebonheur.com.
Les choses défendre notre cause pour une métamorphose, voilà ce qui s'impose loin de tous ces requins. Je poursuis mon chemin, loin de la culme, mon poids s'y évolue, voilà ma vraie fortune.
Sans grand moyen, oui, je suis né, pourtant prêt à affronter cette injuste réalité, prérêtée par le pognon, car sans ma face, il est écrit que je suis à l'écart de la grande répartition monétaire, préservée depuis plus d'un millénaire chez le pauvre,
oui, depuis trop longtemps.
Les valeurs n'ont pas changé, quel que soit le siècle, quelle que soit leur mesure, on pleure, car la monnaie a une clarté qui aveugle mes frères, dis-moi. La mort au coin des rues se charcutant pour un blouson. Eh mec, de cette façon le pognon ne fera pas l'ampleur de ta condition.
L'argent pourrit les gens, j'en ai le sentiment. Je me prétends pas du tout différent, j'aime l'argent. L'adopter, le maîtriser, le contrôler avec doigté, il doit apporter une jouissance interne et intense. Quelle qu'en ait été l'origine de la semence. Oui, j'ai ce défaut aussi, mais jamais je n'ai trahi la confiance de mes pères pour une sale affaire de fric. Situation courante et dramatique, la corruption est une arme à ne pas négliger. Si tu veux réussir en politique, sache que l'arnaque est une technique, une tactique illicite qui profite toujours même au pilier du système. Mais que fait la justice? L'argent les rend complices. J'en ai le sentiment, j'en ai le sentiment.
L'argent pourrit les gens.
J'en ai le sentiment, j'en ai le sentiment.
La convoitise perpétuelle des biens de mon prochain ne fait qu'enflammer constamment mon amour pour l'argent. Et pourtant, étant conscient que cette valeur est matérielle, rien ne m'arrête pour l'acquérir. Donc je me fais prédateur pour une poignée de papier qui, pour un jour ou plus, me fera croire que l'argent fait le bonheur. Oui, je me l'air dérégulé par le système qui me pousse à l'extrême. Je suis en bas, mais bien plus loin. Comparable par leur niveau, des gens tournent le dos à la famine de leurs égaux, dédaignant leur père. Car plus ils trouvent tout l'argent, moins le monde devient réel et c'est bonheur. Non, je ne crois pas que le pognon soit une rançon du bonheur. L'argent pourrit les gens,
j'en ai le sentiment,
j'en ai le sentiment.
Tout le temps, 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 tout le temps.
L'argent pourrit les gens.